réplique « De quoi souffre la France ?» avec Alain Duhamel et Denis Tillinac. Alain Duhamel et Denis Tillinac sont tous les deux inquiets. Mais ce n'est pas la même inquiétude. Tandis que Tillinac affirme dans son livre « L'âme française » que le risque d'une disparition de la France est à l'ordre du jour, Duhamel inventorie pour sa part les pathologies françaises. Pour l'un, la France est menacée, pour l'autre, elle est malade. Parmi ces pathologies figure en bonne place le déclinisme et le nationalisme. Je demanderai donc à Alain Duhamel, pour commencer, ce qu'il entend par ces deux termes. Qu'est-ce exactement que le déclinisme? Qu'est-ce que le nationalisme? Et comment expliquer leur rémanence ou leur résurgence? Alain Duhamel.
Le déclinisme, c'est une hypertrophie de la mélancolie. C'est ce qu'on appelait quelquefois une acédie. C'est l'idée selon laquelle la France non seulement est malheureuse, mais d'une certaine manière est poursuivie par le destin, fait l'objet d'un traitement divin, injuste, anormal, durable, que la France est une sorte de cible des malheurs du monde et que on interprète toutes les difficultés qui sont considérables. Mais toutes les difficultés que traverse la France, comme si nous étions sur un éternel toboggan qui ne pouvait que nous mener aux enfers. Le nationalisme, c'est tout à fait autre chose. Le nationalisme, c'est, je dirais, la forme pathologique du patriotisme. Le patriotisme est quelque chose de non seulement de nécessaire, mais de très beau, qui doit être au cœur d'un peuple, bien sûr. Le nationalisme, c'est une dérive. Le nationalisme, alors on connaît bien toutes les formules, patriotisme c'est aimer les siens, le nationalisme c'est détester les autres, mais le nationalisme c'est une agressivité qui cherche en permanence des boucs émissaires à l'extérieur et à l'intérieur. Et en ce sens, pour moi, le nationalisme c'est un danger pour le patriotisme. Des ennemis extérieurs, on en a toujours, on en a des vrais, des ennemis intérieurs, il arrive qu'on en ait dans notre histoire. On en a beaucoup d'exemples, mais faire de sentiments, de rejet, d'exclusion, d'hostilité, de combativité, une sorte d'idéologie dominatrice, je pense que c'est un grand danger, même si je distingue évidemment entre le nationalisme ouvert, qui était celui du général de Gaulle, et le nationalisme fermé, qui est celui de l'extrême droite, ou quelquefois d'ailleurs de l'extrême gauche, ça existe aussi. Il n'empêche que le nationalisme, c'est à mes yeux un danger, alors que le patriotisme, c'est non seulement une nécessité, mais une bénédiction.
Mais vous pensez aujourd'hui, en France, que le nationalisme prend le pas sur le patriotisme ? Parce qu'on a vu des manifestations patriotiques, notamment après les attentats du 13 novembre, la réconciliation d'un certain nombre de Français qui croyaient n'avoir rien à faire avec la nation et qui tout d'un coup retrouvent le sens du drapeau tricolore.
Oui, ça c'est du patriotisme,
à plein
ça.
Poumon la Marseillaise.
Oui.
Et on pourrait penser que dans la France d'aujourd'hui, il y a un retour du patriotisme et vous vous dites non, il y a surtout une montée du nationalisme.
Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une montée du nationalisme qui marche avec l'extrême droite. Et ça, dans l'histoire, en France et hors de France, ça a toujours été. L'extrême droite et le nationalisme sont des frères jumeaux. Le patriotisme français, au contraire, est plutôt en train de... Il n'a jamais disparu, donc il ne s'agit pas de dire de renaître. Mais face aux difficultés, en particulier face aux problèmes, par exemple, de l'islam, je pense que le patriotisme français est en train de retrouver à la fois de la vigueur et de la conscience de lui-même. Et je pense qu'en ce moment, on est dans une phase passionnante et dangereuse où à la fois il y a une extension du nationalisme, mais aussi où il y a un regain du patriotisme.
Denis Tillinac, êtes-vous décliniste et L'âme française est-il un livre nationaliste?
Sûrement pas, non. Je suis d'accord avec Alain Duhamel sur le fait que le nationalisme est une pathologie du patriotisme. J'accepte moins d'entendre dire que De Gaulle avait quelque chose de nationaliste.
Non, ouvert, je précise.
Non, je crois que
c'est un grand gaulliste qui disait ça. C'était le professeur Jean Touchard qui avait travaillé avec lui et qui était un gaulliste un gaulliste passionné, et c'était sa thèse.
Je préfère patriotisme intransigeant, s'agissant du général, mais enfin, c'est un détail. Décliniste, oui, non, je suis pas franchement décliniste. Je crois que la mélancolie est une fatalité de l'âme française, ça remonte à loin. Je crois que quand De Gaulle dit la France ne peut pas être la France à la grandeur, c'est que la France est porteuse, et les Français en ont obscurément conscience depuis toujours, de quelque chose de l'ordre de l'universalisme. Ça vient des croisades quand même, ça vient de la grandeur, Louis, du grand siècle, ça vient de l'épopée bonapartiste sans lequel le romantisme français n'aurait pas été ce qu'il était, et des gens comme Chateaubriand, Balzac, Hugo, et leur suite procède quand même de la nostalgie de l'épopée impériale. De Gaulle en a rajouté une couche. Donc, je crois que le Français ne peut pas accepter d'être le citoyen d'un pays, je crois, de la 5e ou 6e puissance économique. D'où cette mélancolie. Elle fait partie, alors... Pour Alain Duhamel, c'est une pathologie. Je dirais que c'est un trait de notre tempérament national. Et bon, c'est comme ça. Quand je dis que la France est menacée de disparition, je pense que le sentiment de dépossession des Français, du peuple français, depuis une trentaine d'années, s'aggrave sentiment nourri par un certain nombre de facteurs, le capitalisme mondialisé qui broie les imaginaires et les normalise, le discours, et là je m'en prends un peu à Alain Duhamel, le discours sur l'Europe, où il nous essaie de nous proposer un patriotisme de substitution. Il n'y a pas de patriotisme européen, on a l'impression quand même que l'Union, les institutions européennes nous enserrent, les flux migratoires génèrent aussi une angoisse, et pour toutes ces raisons, on a l'impression que c'est l'âme française, la nation, l'État-nation, c'est récent en plus, c'est l'âme française dont j'ai peur qu'elle finisse par s'étioler, et à ce moment-là, on deviendra une espèce de canton d'une entité qui pourrait être une Europe, et qui sera à ce moment-là probablement gouvernée par les Allemands. Sous contrôle américain.
Ah oui, bien sûr. D'abord, pour moi, l'Europe, c'est pas du tout un patriotisme de substitution. Je pense
que j'ai dit que c'est comme ça que les gens le ressentent. Ils ont l'impression.
Non, mais vous m'avez mis en cause.
Oui,
non,
parce que j'ai lu votre livre que vous êtes un européiste.
Mais non, je suis un
fervent.
Je suis un Européen, mais pour moi, l'Europe, c'est un levier d'Archimède dont la France, qui est d'ailleurs à l'origine de l'Europe, aurait dû savoir se servir et a su quelquefois se servir, et aujourd'hui, apparemment, s'en sert beaucoup moins bien. L'Europe, c'est un objectif et une ambition. Il y a 30 ans, publié un livre qui s'appelait « Une ambition française ». Et il se trouve que Maurice Cauve de Murville m'a écrit une lettre pour me dire qu'il était tout à fait d'accord et que c'est comme ça qu'il fallait voir les choses, selon lui. Bon, pour le reste, la mélancolie de Denis Tillinac, moi je la trouve extrêmement sympathique. D'ailleurs, je trouve Denis Tillinac extrêmement sympathique en règle générale. Et j'aime bien ses livres parce que j'aime bien son style et qu'en plus, j'identifie très bien ce qu'il représente. C'est vrai qu'il y a toujours eu en France des nostalgiques d'une chimère française, des adorateurs du pays et de la nation, et ça je ne leur reproche certainement pas, et puis surtout des grands inquiets qui sont à la fois adorateurs d'une grandeur nécessaire et d'un universalisme. Je ne reprendrai pas l'exemple de Denis en ce qui concerne les croisades, parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple de l'universalisme français.
Non, mais
même si notre rôle a été moteur du début jusqu'à la fin. On ne peut pas dire qu'on n'ait pas été moteur dans les croisades. Mais j'en termine. Je pense que la mélancolie, à la fois intrinsèque et en plus passant par des crises d'intensité en France, c'est quelque chose qui existe depuis que la France existe.
Oui,
c'est quelque chose qui nous est particulier et c'est quelque chose qui est à la fois honorable, mais qu'il faut essayer de surmonter. Notre vocation n'est pas d'être d'éternels mélancoliques, même si les mélancoliques peuvent être très sympathiques.
C'est Denis Tillinac, et ensuite notre prendrai la parole.
Je crois que notre vocation, notre températion n'est pas d'être tièdement raisonnable non plus.
D'abord, mais on ne sait tiède. Pas faire.
C'est pas notre... C'est pas...
Mais l'alternative à la mélancolie n'est pas la tiédeur.
Non, mais cette mélancolie...
L'alternative à la mélancolie, c'est la hardiesse, pas la tiédeur.
Cette mélancolie, je la constate. Elle procède aussi de quelque chose qui est un peu au cœur de mon livre. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que je crois, que, comme Alain Duhamel, me semble-t-il, au clivage droite-gauche. Je crois à sa pérennité, même si les idées peuvent se passer d'un camp à l'autre. Je crois qu'il y a une crise de légitimité très profonde, enracinée par la Révolution française. À partir de là, la France oscille entre l'aspiration à un homme providentiel... Alors quand c'est Bonaparte, même Napoléon III, le général de Gaulle, c'est parfait, ou Clémenceau, André, et d'une espèce de poujadisme, la Fronde. Et donc, c'est ça la France. Voilà. Et puis ça le sera toujours, on n'a pas l'homme providentiel, on est malheureux et on se sent orphelin.
Alors, je pense, et je voudrais intervenir là-dessus, sur les deux questions du déclinisme et du nationalisme. Je ne les aborderai pas en même temps pour ne pas accaparer la parole. Sur le déclinisme, il me semble qu'il y a des raisons objectives et actuelles d'être mélancolique, qui ne tiennent pas au tempérament, qui tiennent à la situation.
Ça, je suis d'accord.
L'école,
c'est ce que j'écris.
L'école, on disait en 1989, c'était le livre de Baudelaire et Stablet, Le niveau monte. Les niveaux montistes, si vous voulez, aujourd'hui se cachent parce que le niveau s'effondre et on le voit notamment avec la dernière enquête sur l'orthographe. Les élèves ne connaissent plus l'orthographe et on se dit qu'ils ne la connaîtront plus jamais puisqu'elle va être corrigée maintenant par les ordinateurs. Donc la question de l'école est absolument cruciale aujourd'hui. On voit aussi se défigurer les paysages. On voit la culture se marginaliser dans notre pays. J'ai reçu l'autre jour Robert Redeker qui a écrit L'école fantôme. Il avait cette phrase assez extraordinaire. La langue française est en train de disparaître de notre paysage auditif. Et on entend sur les antennes du service public qu'il faut travailler en profondeur sur comment développer le vivre ensemble. Et ça ne choque personne. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. C'est la nouvelle syntaxe. Donc tout cela devrait quand même nous alerter. Et on n'a pas le sentiment, si vous voulez, que les choses vont aller en s'améliorant. Au contraire, j'ai sous les yeux le livre que Natacha Polony et le comité Orwell ont publié, viennent de publier « Bienvenue dans le pire des mondes ». Alors peut-être exagèrent-ils, mais en même temps...
Je l'ai lu hier, ils exagèrent.
Ils exagèrent, mais en même temps, ils montrent que la notion de compétence a pris le pas sur celle de savoir et de connaissance, puisqu'il ne s'agit plus justement de transmettre le savoir à l'école, mais de vérifier que l'élève est capable de mobiliser des ressources pour répondre à une situation concrète spécifique. Donc, l'école a renoncé à l'essentiel de sa mission humaniste et cela ne peut que nous inquiéter. Et je ne crois pas que cette inquiétude témoigne d'une persistance, d'un caractère français qui serait la mélancolie.
Puis-je vous répondre ?
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Quand je dis que je considère que le déclinisme est une pathologie, je ne dis pas qu'il n'y a pas des formes de déclin. C'est évident qu'entre la France de Louis XIV et la France d'aujourd'hui, le statut n'est pas le même. Je serais stupide si je l'ignorais. Qui est en ce moment ? Quand je dis en ce moment, ça veut dire, en simplifiant, pour notre génération. Qui est des problèmes spécifiques, graves, difficiles, mal gérés, et que ce soit des motifs d'inquiétude légitime, je suis totalement d'accord. Je le pense notamment à propos de l'enseignement. Après tout, entre 1875 et 1914, ce qu'on appelait à l'époque l'instruction publique française était un modèle considéré comme ce qu'il y avait de mieux en Europe. Aujourd'hui, l'ensemble de l'appareil scolaire français, quand on essaye de le comparer avec les autres pays, est à la 26e place. Je ne vais pas dire que je considère ça comme une ascension et je ne vais pas dire que je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes gigantesques. Et en ce moment, qu'en France, on ait des motifs objectif d'inquiétude et sur ce que nous sommes et sur nos perspectives et sur notre rang et sur notre statut et sur l'image qu'on donne. Bien sûr que ça, c'est justifié. Mais ce contre quoi je suis, c'est l'idée qui existe chez les déclinistes, et les déclinistes en ce moment sont influents, importants, alors qu'ils aient une influence, c'est normal, mais ils ont une importance. Et en ce moment, c'est l'idée que nous sommes dans une espèce de repli désespérant vers une banalisation et vers une rétrogradation. Eh ben, ça, c'est une idée que moi, je n'accepte pas. Je suis tout à fait d'accord pour dire que pour cette génération, pour notre génération, il y a énormément de motifs d'insatisfaction et d'inquiétude et qu'il y a, si j'ose dire, une mélancolie légitime. Mais que cette mélancolie légitime n'a pas, à mes yeux, n'a pas à être un caractère non seulement persistant, mais s'aggravant inexorablement. Ça, c'est une idée que je rejette tout à fait.
Denis Tillinac, sur cette question.
Moi, je dirais que notre mélancolie rend plus douloureuse la perception, la conscience qu'on a d'un état des lieux qu'on peut constater. Alors, vous avez parlé de l'école, des paysages, de la culture, et d'un état des lieux mais qui n'est pas propre à la France, hein. C'est probablement la civilisation occidentale, ce qu'on a appelé, qui est en train d'agoniser, peut-être toutes les civilisations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'école, bon, on est, il y a des nostalgiques, je pense à mon ami Régis Debray, de l'école républicaine, de l'Institut de la Troisième, en blouse grise. Bon, cette école avait, vous avez parlé d'une mission, les enseignants ne peuvent pas avoir de mission, elle avait une mission, elle avait deux missions, elle avait de supplanter les prêtres dans l'exercice de la pédagogie, c'est-à-dire de promouvoir la morale de Kant contre celle du Christ. On a fini par découvrir que c'était à peu près la même, mais c'est trop tard. La deuxième, vous avez parlé des paysages, mais c'est survoler n'importe quelle grande ville du monde entier en avion. Vous vous rendez compte que les paysages, la planète est saccagée partout de façon de plus en plus uniforme, puisque on est émancipé des matériaux de base qui faisaient qu'un village provençal ne ressemblait pas à un village de l'Artois parce que c'est pas les mêmes matériaux. Donc c'est pas propre à la France. Et quant à la culture, bon, là, il suffit de s'intéresser ou d'observer de près l'art contemporain pour se rendre compte qu'il y a une espèce de postmodernité qui plonge dans un nihilisme ricanant, une dérision. C'est Jean-Claire le dit mieux que moi. Tel que je crois tout le monde a conscience que la civilisation occidentale est en train de mourir, et je pense que de par notre histoire, de par l'idée que nous faisons de notre histoire, mythifiée un peu, ce sentiment est plus douloureux pour les Français que pour peut-être les Anglo-Saxons.
Oui, peut-être plus douloureux aussi parce que la France, et c'était reconnu par ses visiteurs jusqu'à une date récente, était une patrie littéraire. Mmh. Ernest Cursus, que j'ai déjà cité ici, le grand romaniste, voyage en France dans les années 20, et il dit « La littérature joue un rôle capital dans la conscience que la France prend d'elle-même et de sa civilisation. Aucune autre nation ne lui accorde une place comparable. Il n'y a qu'en France où la nation entière considère la littérature comme l'expression représentative de ses destinées. Mmh. » C'était vrai jusqu'à Mitterrand. J'ai été très gêné par la publication de ses lettres à Anne, parce qu'elle relève, me semble-t-il, du secret de l'intimité, qui est aujourd'hui violé, profané partout. Mais quand on les lit, puisqu'elles sont à notre disposition, on voit là un homme de culture, un homme pétri de littérature, et on voit très bien que c'est le témoignage d'un monde qui n'est plus.
Oui, c'est,
donc
c'est
aussi peut-être la raison pour laquelle en France on souffre davantage de ce qui se passe qu'ailleurs.
Oui, je crois que c'est à mon tour de parler.
Pardon.
Je voudrais d'abord, en ce qui concerne la mélancolie française, qui est une réalité aujourd'hui, qu'on ne confonde pas les phases et la pente. Qu'on soit dans une phase où la mélancolie est légitime, c'est une idée que je partage tout à fait. Que ce soit une pente inexorable, la France ne cesse depuis 10 siècles de passer par des périodes effroyables et puis par des reconstructions exceptionnelles. C'est pas une nouveauté. Et l'idée selon laquelle on est toujours la dernière génération d'une dernière civilisation, mais on voit ça depuis que la littérature française, qui a effectivement une place particulière, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres pays de la même façon, c'est ça traverse toute notre littérature, cette idée-là. Et l'autre chose, et c'est ça qui me frappe, et c'est pour ça que je parle de déclinisme français, l'autre chose, c'est que tous les pays d'Europe et tous les pays occidentaux ont des motifs de mélancolie. Tous traversent une crise économique, tous traversent une crise sociale, tous ont à faire face à des problèmes, des problèmes religieux qui sont différents d'un pays à l'autre, mais qui sont toujours angoissants. Tout ça est vrai, tous ont, on ne l'a pas encore évoqué, mais tous ont à faire face à un bouleversement des mœurs qui se fait avec une rapidité et une ampleur qu'on n'a probablement jamais connue dans l'histoire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'au milieu de ces épreuves, qui sont des épreuves communes à tout le monde occidental, les Français qui ne sont pas les plus touchés par les malheurs, ils le sont moins que 20 autres pays, que 40, que 60, que 80, sont les plus, et alors là, toutes les études le confirment, les plus pessimistes de tous. Et c'est ça, c'est là où il y a un déclinisme français. C'est qu'on se croit toujours plus malheureux que les autres. Ça n'est pas vrai. Et on croit toujours que nos malheurs sont l'annonce de notre naufrage. Et des naufrages français, il y en a eu 10 dans l'histoire. Et ensuite, il y a eu 10 prouesses françaises. Et il n'y a aucune raison que les choses aillent différemment.
La conscience d'un malheur, c'est subjectif par essence.
Ça, vous par un peuple, par un individu.
Vous y pouvez rien, oui. Le fait est que je crois les Français ressentent plus douloureusement que d'autres quelque chose que... Alors là, je vais invoquer avec prudence un terme qui a été mal utilisé. C'est le terme de Spengler, la décadence. Hein. Bon, on a l'impression quand même que tout ce à quoi ils sont attachés est en train de foutre le camp. Et à une vitesse qui s'accélère, parce que la rotation des stocks imaginaires tourne de plus en plus vite, parce que le capitalisme mondialisé broie de plus en plus les psychismes, les médias audiovisuels jouent leur rôle, parce qu'on a l'impression quand même... bien sûr, c'est vrai qu'à chaque génération, on a dit, nous, c'est
les débuts de la fin. Et qu'à chaque génération, l'art contemporain était considéré comme une nouvelle catastrophe.
Non, parce que l'art...
Il y a une différence.
Les impressionnistes se définissaient par rapport à Delacroix, qu'ils se définissaient par rapport à Ingres, qu'ils se définissaient... Il y a une histoire de la peinture qui est très cohérente, avec toujours des ruptures, mais toujours des références à la mémoire, jusqu'à je dirais, en gros, les expressionnistes américains, enfin, Nicolas de Staël, et bon, donner... Bon, là, on rentre dans... L'art contemporain n'a plus aucun ancrage avec l'histoire de l'art. On est dans une autre humanité. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de la civilisation occidentale. Oui, enfin, parce qu'on cumule toutes les fins. C'est la fin de l'histoire, quand même. Si l'histoire, c'est un peuple, un territoire, un chef, c'est la fin de la métaphysique. On ne peut pas aller plus loin que la déconstruction. C'est fait. Un truc. C'est la fin de l'aventure géographique. C'est le désenchantement dont parle Gaucher est arrivé à son terme psychologique.
C'est l'idéologie du naufrage que vous décrivez.
Non, c'est les gens sont trop malheureux. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut s'adapter. Jacques Ellul, théologien protestant que vous connaissez, a dit que c'est les esclaves.
Enfin, je connais très bien
c'est les esclaves qui s'adaptent. L'homme libre n'a pas à s'adapter.
Mais attendez, Alain Duhamel, moi, je n'utiliserai pas forcément le thème de pathologie parce que j'hésite je ne sais pas comment dire, médicaliser ou psychiatriser ceux avec qui je ne suis pas d'accord. Mais il y a une tendance en France, tout à fait contraire à celle que vous décrivez, et que j'appellerais, moi, le panglossisme. C'est-à-dire, nous vivons dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, c'est ce qu'écrivait dans une chronique récente Luc Ferry, s'en prenant justement à la nostalgie, avec une certaine véhémence et un certain brio. C'est aussi ce qu'écrit récemment Michel Serres, disant « L'Europe occidentale vit une époque paradisiaque ». Et surtout, il y a une expression...
Mais ça n'est pas du tout ce que je dis.
Non, c'est pas ce que vous dites. Il y a quand même une expression. Non, ça je suis d'accord, et bien sûr j'en prends acte. Mais il y a une expression aujourd'hui qui fait rire non seulement les humoristes professionnels, qui sont la voix de la doxa, mais tous les éditorialistes et un certain nombre d'intellectuels, c'est l'expression « c'était mieux avant ». Le Point en a même fait sa couverture. Non, ce n'était pas mieux avant. Et là, je voudrais opposer une citation d'un auteur qui n'est pas français, mais allemand, Thomas Mann. « Admirer le passé n'est, me semble-t-il, pas forcément contraire à la vie, et c'est absolument préférable à l'outrecuidance. Aucune époque n'a jamais eu motif de se sentir tout à fait bien dans sa peau, de voir la paille dans l'œil d'autrui et non la poutre dans le sien, la nôtre moins encore. Or, on a le sentiment aujourd'hui que, justement, la nostalgie n'a pas lieu d'être. La nostalgie est tournée en ridicule. Or, il y a peut-être des comparaisons avec hier qui ne joue pas en faveur d'aujourd'hui. Et on doit pouvoir y réfléchir, on doit pouvoir le dire si tel est le cas.
Mais Alain Finkielkraut, je n'ai jamais pensé le contraire. Je n'ai jamais considéré d'abord que ce qui n'était pas de mon avis ne devait pas s'exprimer.
Ça, et, c'est vrai.
Et en particulier que quand il s'agit de sujets de ce genre, qui me touchent et qui m'intéressent et qui me passionnent, je n'ai jamais considéré comme ridicule d'avoir des nostalgies. De même que je n'ai jamais considéré comme absurde d'être un traditionaliste. Le fait de regretter le passé, évidemment... moi aussi, j'aimais mieux quand toute l'Europe aristocratique parlait français et toute la diplomatie du monde se faisait en français. J'aimais mieux quand on passait pour la grande nation, entre guillemets. J'aimais mieux quand on donnait l'impression que tout ce qu'il y avait comme changement, non seulement artistique et littéraire, mais aussi scientifique et militaire, naissait en France. Je trouve ça formidable et j'adore avoir ces souvenirs. Et on peut avoir une fierté de cette culture-là. Et je tourne pas du tout en ridicule ceux qui en ont la nostalgie. Ce que je dis, c'est que croire à des traditions, croire à une histoire, croire, pour reprendre l'expression de Denis Tillinac, à une âme française, cette expression que je partage, heureusement qu'il y a une âme française, bien entendu, heureusement qu'il y a une âme française. Mais ça ne doit pas être refuser le monde contemporain, ça ne doit pas être esquiver des problèmes, ça ne doit pas être imaginer qu'on puisse échapper à des transformations matérielles, financières, économiques qui, de toute façon, existeront, que ça nous fasse plaisir ou non, parce qu'elles sont universelles et que c'est aussi une des formes d'intelligence, tout en étant attaché à ce qu'on a été, tout en étant attaché à notre histoire, à nos racines, à nos rites, à nos symboles, d'avoir en même temps envie de transformer ce qui doit l'être pour que, justement, on continue à être. Et d'un mot, quand il y a eu les fameux attentats, j'ai été... frappé, blessé comme tout le monde. J'ai été, comme beaucoup, et comme Alain Finkielkraut le disait tout à l'heure, heureux de voir aussi une manifestation de patriotisme français. Mais j'ai été, si j'ose dire, encore plus fier de voir à quel point un malheur français devenait instantanément un malheur universel. De voir le monde se précipiter, ça signifie qu'on n'est pas effacé du monde. Ça veut dire que la France veut encore dire quelque chose, et donc il ne faut pas en permanence battre notre coulpe historique et se désoler sur ce que nous sommes devenus. On est différent, c'est un monde différent, on a nos racines, et on doit aussi être capable de s'adapter et de se transformer, comme d'ailleurs tous les peuples de tous les pays, dans toutes les époques.
Denis Tillinac.
Je bats pas ma coule. Bon, la nostalgie, c'est le pain et le vin de tout écrivain, hein, qui se coltine contre le temps perdu. Donc, je la revendique comme un...
C'est votre matière première.
Et un outil de travail. Hein. Bon, tout de même, toutes les civilisations, y compris la nôtre, que ce soit les civilisations à historicité froide, comme disent les ethnologues, ou la civilisation occidentale, vectorielle ou fléchée, de par le judéo-christianisme, ont construit leur destin dans une dialectique entre l'instant présent, qui est évanescent, et le passé individuel, le passé de sa famille, le passé de sa culture, le passé de sa religion, le passé de son peuple. Pour la première fois, on propose aux générations montantes de se construire dans une stricte dialectique entre l'instant présent qui n'est rien et le futur qui n'existe pas puisqu'on peut être mort demain matin. Hein, donc, ça produit un sentiment de précarité qui n'est pas propre à la France. Une fois de plus, le français peut-être le vit plus mal que les autres pour les raisons qu'on a évoquées, brossées. Il y a un sentiment de précarité qui fait que des psychanalystes disent qu'on n'aura même plus le temps de se construire un inconscient.
Rien n'empêche de modifier la pédagogie, les méthodes et les programmes de l'éducation nationale. Rien n'empêche de entretenir non seulement le souvenir, mais la réalité de valeurs, de symboles communs, etc. C'est pas du tout... Il n'y a aucune raison que ce qui est difficile aujourd'hui soit impossible demain. C'est là où on se différencie. Je ne crois pas du tout à une espèce de décadence inexorable.
Alors,
je pense qu'on traverse une phase extrêmement difficile, que la quantité de métamorphoses simultanées est extrêmement difficile à vivre, en particulier pour les plus démunis et pour ceux qui s'y adaptent le plus difficilement, que c'est une phase qui est comme ça, mais que cette phase-là, ça n'est pas l'avenir du monde et de la France.
Alors, je voudrais aborder maintenant, justement, le deuxième thème dont j'avais parlé, le déclinisme, le nationalisme. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Je veux m'interroger sur justement cette montée du Front National et son caractère peut-être inédit par rapport à d'autres situations, d'autres moments d'une histoire où l'extrême droite a été florissante. Vous dites, Denis Tininac, dans votre livre, « Mémoire, identité, c'est la perception d'une menace qui fait naître la prise de conscience. La France des années 60, pourtant en pleine effervescence, ne se souciait pas de ses racines, elle aspirait plutôt à s'en évader en dévalant la Nationale 7 pour aller twister le rock à Saint-Tropez. Mais là, il y a toutes sortes de phénomènes, vous les avez décrits. Mais moi, je voudrais m'arrêter justement à celui des flux migratoires. Parce que les flux migratoires, ça peut introduire une analogie. On cherche un bouc émissaire. Sauf qu'il y a, me semble-t-il, une différence. Une différence que Christophe Guillouis a analysée en disant que il y a de plus en plus de lieux, de villes où les Français n'ont plus le sentiment d'être des référents culturels. Ce pourquoi ils les quittent. Insécurité, anxiété culturelle. Et Bernard Maris, hein, Bernard Maris, journaliste de Charlie, dans son dernier livre...
Qui était aussi un universitaire.
Oui, absolument, vous avez raison. Mais dans son dernier livre, qui, hélas, est son livre testamentaire, pose cette question... Pourquoi, après 30 ans de chômage de masse, la question sociale n'était plus le moteur du vote ouvrier ou populaire? Pourquoi la question culturelle l'a-t-elle remplacée? Et donc, la question culturelle l'a remplacée, et une partie des électeurs va vers le Front National, ce qui est très inquiétant, en effet, mais ce qui témoigne, me semble-t-il, de cette situation inédite en France aujourd'hui. Cette insécurité qui frappe de plus en plus d'autochtones, de plus en plus de Français, qu'on n'a même plus le droit de dire de souche, et qui ont été qualifiés par Ouria Boutelja, la grande représentante des indigènes de la République, de souchiens. Alors, voilà, que faire face à ce phénomène? Et reconnaissez-vous avec moi qu'il a quelque chose de singulier, de nouveau dans notre histoire? Denis Tininac.
Ça rejoint quand même mon propos précédent, en deux termes quand même, pour que le clôturer la première partie de notre débat. Je ne suis pas du tout un traditionaliste, j'ai bien conscience que diviniser une tradition, c'est se vouer à la nécrose et à la folie. Je pense simplement que nous vivons la plus grande mutation, probablement depuis la proto-histoire, et donc c'est assez normal qu'on soit tous un peu désemparés, les sages, les philosophes, y compris les religieux, n'ont pas grand-chose de nouveau à nous dire, parce qu'on n'a pas encore le recul pour avoir de nouveaux Marx, de nouveaux Tocqueville ou de nouveaux Chateaubriand. Donc je pense ça. Donc je pense que ce que nous vivons, nous n'avons pas les lunettes, nous n'avons pas les grilles pour le comprendre. Et c'est mondial. Et vous évoquez ce sentiment de dépossession que les Français éprouvent. Ce sentiment, il est sinon mondial, du moins occidental, puisque c'est très présent dans le livre d'Alain Duhamel. C'est dans tous les pays européens que les partis populistes connaissent des succès. Alors moi, ce que je veux dire, en tant que provincial, je découvre effectivement que depuis une vingtaine d'années, dans les villes moyennes, la petite ville, le petit chef-lieu, où il faisait si bon vivre, hein, la préfecture, la sous-préfecture, on a réhabilité les centres historiques, parce que c'est historique, c'est beau, les municipalités ont réhabilité, ça fait des logements sociaux, on n'y voit plus que des cassos, comme on dit, des RSA, gens un peu à la dérive, à la ramasse, pour des tas de raisons, et des immigrés. Parce que même les prolétaires préfèrent aller en dehors de la ville, avoir un bout de jardin et un garage. Bon, pour ces raisons, vous allez à Brive, à Cahors, à Tulle, à Montauban, pour parler des villes que je connais mieux que d'autres, vous, à 7h du soir, dans le bistrot ou les gens du coin allaient prendre leur apéro, ils ont l'impression, des fois, c'est une impression. Elle est lourde de fantasmes, ils ont l'impression, effectivement, de plus reconnaître la ville dans laquelle ils ont passé leur vie. Oui, ça c'est une réalité, c'est une perception. Mais la perception, ça compte et ça génère un sentiment de dépossession qui explique partiellement, dans les milieux dits de la ruralité, hein, parce que c'est la ruralité, elle est autour de ces villes qui n'ont plus aucune espèce de tissu économique, dont ça peut expliquer en partie la progression du vote du Front National. Oui, ça l'explique évidemment.
Alain Duhamel.
Le Front National, il est d'abord né chronologiquement, et ça n'est pas contesté d'ailleurs. Il est d'abord né chronologiquement du moment à partir duquel les Français ont eu le sentiment que la crise n'était pas simplement une mauvaise période à passer, mais que la crise était en train de s'enraciner. Et quand ceux qui en ont été les premières victimes, qui étaient d'abord des ouvriers traditionnels, qui étaient les victimes désignées. Mais ensuite, il y a eu d'autres catégories. Effectivement, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les métropoles qui, en France comme ailleurs, se développent économiquement de façon spectaculaire et au contraire, la désertification ou, pour le coup, le déclin de petites industries locales en province. Quand les gens ont eu le sentiment que ça n'était pas simplement pour 10 ans, mais que c'est quelque chose qui s'enracinait. Le Front National a commencé à prospérer parce que le Front National, c'est un refus, un rejet de la réalité telle qu'elle est et une réponse qui est extraordinairement sommaire, qui est extraordinairement régressive, mais qui, vis-à-vis de gens qui souffrent et surtout qui sont en colère, est quelque chose qui peut parler. Ensuite, il y a eu le fait que, je ne sais pas si on est en train de vivre, comme le disait Denis Ilinac, la plus grande métamorphose de l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre à la fois une nouvelle révolution industrielle, la révolution numérique, qui a d'énormes bons, qu'il y a la financiarisation qui fait que la marge des pouvoirs politiques dans tous les pays occidentaux se réduit, bien entendu, qu'il y a cette transformation des mœurs et qu'il y a le phénomène de l'immigration. Et le phénomène de l'immigration, ça a été, si j'ose dire, chronologiquement, le deuxième adjuvant de ce qui est devenu notre mixture nationale quotidienne. Ce deuxième adjuvant, évidemment, il pose des problèmes qu'on a eu tendance au début à traiter par analogie avec d'autres immigrations antérieures. Au début, c'était peut-être vrai, mais c'est devenu faux. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre, de différent. Et alors la difficulté, bien entendu, ça aussi, ça fait prospérer le Front National. Mais la difficulté, c'est qu'en réalité, la seule vraie réponse à terme, c'est pour le coup un vrai drame qui n'est pas un drame français, qui est un drame occidental, et notamment européen, mais occidental, parce que les États-Unis ont des problèmes tout à fait de ce genre aussi, c'est que s'il n'y a pas un développement économique, une croissance et en même temps un contrôle des naissances suffisant dans les pays les plus défavorisés d'Afrique, il est évident que le flux migratoire continuera à être non seulement croissant, mais à un certain moment totalement indigeste, impossible à piloter. Et que, à chaque fois qu'on parle, et ça m'arrive relativement souvent, à chaque fois qu'on parle de politique gouvernementale face à ce phénomène-là, on essaye de trouver des solutions aux effets, c'est-à-dire à l'introduction en France, et pas à la cause, c'est-à-dire s'il n'y a pas un développement de l'Afrique, et notamment de l'Afrique subsaharienne, il y aura évidemment un phénomène migratoire massif dans toute l'Europe, comme il y a un phénomène d'Amérique latine vers les États-Unis. Et si j'avais à faire une critique massive à ceux qui nous gouvernent, et pas simplement à ceux qui nous gouvernent en ce moment, à leurs prédécesseurs aussi, c'est que cette question du développement de l'Afrique, on sait qu'elle est clé pour le coup, pour l'identité française et pour la civilisation française, et que le traitement régresse depuis des années au lieu de progresser, et que ça, c'est un problème gigantesque.
Denis Tillinac.
C'est assez mélancolique pour vous convenir.
Non, mais le militant francophone que j'ai pu être dans une vie antérieure ne peut qu'approuver en partie ce que vous dites, mais vous savez, s'il faut attendre que les pays dits du tiers-monde...
Mais il ne faut pas attendre, justement.
Attendez, Afrique et même Maghreb, Machrek, aient atteint un niveau de développement économique tel que leur peuple n'éprouve plus la nécessité de foutre le camp pour vivre moins mal. On évalue ça entre 2 et 5 siècles.
Il y a quand même un tiers.
Je crois que c'est dire, Denis, alors il faut aider l'Afrique, c'est du baratin, ça.
Non, ben ça, je ne crois pas du tout. Et je voudrais simplement relever au passage qu'il y a en gros un tiers des pays africains qui ont une croissance qui est raisonnable 7, 7, 8 et en même temps un contrôle de naissance qui est raisonnable. et qui arrivent à régler leurs problèmes.
En même temps, Alain Duhamel,
on peut le faire.
Oui, on ne peut pas les développer à leur place, si vous voulez. Le colonialisme, c'était cette tentative, et maintenant, c'est comme si...
C'est notre intérêt de tout faire pour y parvenir. Et il ne faut pas dire que tout est impossible. Parce que quand on a inventé... Alors, je ne sais pas si l'analogie vous sera suffisamment familière. Mais quand on a inventé le plan Marshall et qu'on l'a appliqué à l'Europe, financièrement, ça n'était pas gigantesque qu'ils se sont fait. Ça n'était pas gigantesque. L'Europe. Mais c'était au bon moment, au bon endroit, par de bons moyens. Et ça a permis à l'Europe de se reconstruire. On peut parfaitement imaginer quelque chose de comparable pour l'Afrique. Simplement, il se trouve que les dirigeants politiques de tous les pays européens en parlent quelquefois, mais ne le font pas du tout.
Petit incident écologique quand même. Il semble acquis que si la croissance, Dieu croissance, je veux dire, se poursuivait dans tous les pays du monde, le sac écologique de la planète est consommé, qu'on va tous crever.
On peut parfaitement avoir une croissance qui ne soit pas la fin du monde. Et non.
Ça pollue.
Hein.
Mais ça, c'est pas la croissance en elle-même.
Ce qui pollue aussi, c'est la croissance démographique. Donc il faut aider peut-être aussi les pays du tiers, ce que vous appelez le tiers monde, d'Afrique et du Maghreb, à assurer une certaine transition démographique. Ce serait indispensable. Mais évidemment, on peut pas le faire à leur place.
Ça serait un peu du néocolonial. Ça serait quand même un néocolonialisme brutal que d'acculer des gens qui ne le souhaitent pas à des pratiques de contraception qui ne sont pas...
Mais alors ne parlez pas d'écologie à ce moment-là.
C'est vrai aussi. Non, mais là, il y a une contradiction. Mais ce que je veux dire, c'est que les flux migratoires, si on attendait que l'Afrique subsaharienne et même le Maghreb...
Mais il ne faut pas attendre, justement.
Mais qu'est-ce qu'on va faire, un nouveau plan Marshall?
Eh bien oui, pourquoi pas. C'est notre intérêt.
Sur les pays d'Afrique francophone, je suis assez d'accord pour l'éducation.
Bah, écoutez, si...
Parce que c'est notre arrière-pays, même économique, pour l'avenir, à l'intérieur d'un fuseau horaire.
Bon, ben voilà un point commun.
Cohérent et des gens qui parlent la même langue, simplement, il faudrait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il faudrait que notre classe politique s'y intéresse. Elle ne s'intéresse pas à la francophonie.
Non, mais justement, ce ne sont pas des sommes qui sont inatteignables. L'intérêt du plan Marshall, c'est que les moyens étaient en réalité relativement modestes, mais que la méthode était intelligente.
Oui, mais
une méthode intelligente, on a le droit de l'inventer.
Alain Duhamel, il y a le problème qui se pose dès aujourd'hui. Oui. Une des crises qui peut inciter les gens, sinon au déclinisme, du moins au pessimisme, c'est la crise de l'intégration. C'est des phénomènes de sécessionnisme culturel, analysés notamment par Gilles Kepel. Comment pensez-vous répondre à cette crise? Est-il trop tard, étant donné la difficulté que l'on peut éprouver devant la force du nombre? Et le nombre est déjà là.
Il faut partir du principe qu'il n'est jamais trop tard. Oui. Parce qu'autrement, ce serait une renonciation, le coup, nationale. Donc il n'est jamais trop tard. Mais ça veut dire, d'une part, qu'il faut ce qui est dans l'air du temps et qui va peut-être se passer dans les 2 ou 3 ans qui viennent, qu'il y ait une politique de l'immigration européenne cohérente et avec enfin des moyens déployés qui pour l'instant ne le sont pas, mais qui ne sont pas du tout hors de notre portée. Et il faut pour le reste qu'il y ait en matière d'intégration une politique beaucoup plus volontariste que ce qui est fait, sans avoir d'illusions. Même si on arrive à stabiliser l'immigration, il y aura toujours de l'immigration, mais même si on arrive à stabiliser l'immigration, pour qu'il y ait de l'intégration, la réponse, ce ne sera pas en 5 ans, ça sera en 1 génération, en 2 générations. Mais vous savez, je ne les compare pas point par point, mais quand arrivaient par exemple au 19e siècle ou au début du 20e siècle, des paroisses entières de Polonais par exemple, comme on a fait venir des villages entiers de leur année ensuite, dans la période beaucoup plus récente, les réactions au départ étaient les mêmes. C'était, mais ces gens-là parlent leur langue, ils ne veulent pas apprendre un autre, leurs curés ne sont jamais comme nos curés. Et comme vous savez très bien, il y a eu également des phénomènes de rejet. Bon, alors, quantitativement, ça n'est pas la même chose. Culturellement, ça n'est pas la même chose. Linguistiquement, ça n'est pas la même chose. Mais on y est arrivé. Simplement, je reconnais que ça demande une grande volonté et des moyens qui, pour l'instant, ne sont pas déployés.
Est-ce qu'on va y arriver, Denis Tillinac?
Bon, point commun, de toute façon, il ne faut pas... Là, je suis d'accord. Nos compatriotes provenance extra-européenne, ils sont 6 ou 7 ou 8 millions, j'en sais rien, sont là, sont des Français, le resteront, donc faut pas baisser les bras, et faut bien essayer non pas de les intégrer, mais de les assimiler. Moi, j'aime pas le mot intégration. La France n'est pas foncière. La France est un pays sédentaire, hein,
paysan,
terrien. Et la France n'est pas un pays d'immigration, comme le sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, ou le Brésil, hein. Elle est un pays où, depuis toujours, arrivent des étrangers, et puis il y avait une espèce de broyeuse qui fait que, avec la part de nostalgie des origines, eh ben, tous devenaient des Français au bout d'une, deux générations, toutes. Jamais sans dépossession, hein. Ça, il faut accepter. Il faut accepter qu'à un moment ou un autre, ben, les racines, c'est, bon, il y a encore le pépé qui est au fin fond de l'Italie ou de l'Espagne ou du Caucase pour ce qui concerne.
Pour une génération, pas au bout de trois.
Non, au bout de trois. Alors là, il y a un problème, vous avez raison, le nombre. Bon, mais là, ça, c'est l'effet des. Ça sert à rien de répéter que c'est l'effet du regroupement familial. On le sait, bon, mais c'est comme ça.
Le regroupement familial, je suis désolé, le regroupement familial n'est qu'une petite fraction. Alors, contrairement à ce qu'on dit très souvent, une petite fraction.
Si la France et le peuple français, si la France est bien dans ses pompes, bien dans son cœur, si elle est sûre d'elle-même, c'est quand même pas un gros problème d'assimiler 6 millions de compatriotes, même s'ils sont de culture musulmane. Le taux de pratique religieuse chez les musulmans, chez les Français musulmans, à peu près le même que chez les catholiques.
On est dans il est supérieur.
Pas tellement. Si, si. Et puis c'est,
là, vous me faites faire l'avocat du diable, mais il est supérieur
quand même.
Et surtout,
de toute façon, le problème.
Mais Denis, il y a une grande différence. C'est que le taux de pratique religieuse, non seulement chez les catholiques, mais chez les chrétiens en général, c'est vrai, des protestants dégringolent, alors que le taux de pratique chez les musulmans augmente.
Oui. Et donc vous l'avez dit vous-même, puisque...
Ça, je pense que c'est ponctuel.
C'est une espèce de...
Ça traduit un malaise, un ressentiment,
une vindicte.
Alors, il faut en prendre acte et pas... Je crois que si... Le problème, c'est assimiler le rebeu à qui on dit ça. Il est en droit de nous dire, ok, je veux bien m'assimiler, mais m'assimiler à quoi? Hein, jusqu'à présent, on avait un certain nombre de valeurs verticales, on avait un art de vivre, on avait un langage, un type d'humour, un tour d'esprit, on avait un art de vivre à la française, qui finalement a été plutôt admiré dans le monde entier, et les néo-arrivants s'y mettaient. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Alors, on nous propose une espèce de religion froide, intégriste aussi sur les bords, qui est le laïcisme. Alors, on dit, ouais, ben voilà, mais ça a pas de chair, c'est sans transcendance, c'est sans rien. Bon, on est tous laïcs, dans le sens qu'on est pour la séparation stricte du temporel et du spirituel qui ne doit pas intervenir dans les affaires d'État. Et après, mais c'est pas, le problème sera pas résolu. On a affaire à des gens qui sont acculturés, dont l'imaginaire est plutôt aux États-Unis, dont l'invocation des racines est bidon, parce que quand l'été, le petit rebeu, il revient dans le village, il y a encore des grands-parents, tout ça, il frime à l'occidental, il n'est pas chez lui non plus, ils sont chez eux nulle part. Moi, je crois qu'il faut cesser d'avoir un discours valorisant le mythe d'une France, terre d'accueil, vouée, de confondre notre propension à produire l'universalisme avec le cosmopolitisme. Moi, le métissage est quelque chose qui nourrit et qui est fertilisant. Le cosmopolitisme, c'est la mort.
C'est-à-dire, il faut insister sur ce qui a fait notre singularité dans l'histoire.
Voilà, vous êtes en France et vous soyez français.
De perpétuer et de le transmettre. Les mœurs.
J'ai une amie qui est haut fonctionnaire, qui est d'origine algérienne musulmane. Ses parents étaient analphabètes. Ils sont arrivés en France dans les années 60. Elle me dit, je suis française, j'en ai marre, on m'a dit immigrée, issue de la diversité. J'ai découvert que j'étais française lorsque, au détour d'une petite départementale, avec ces petits bordées de platanes françaises, j'ai découvert que j'ai été ému en voyant l'abside d'une petite église romane. Mais elle m'a dit, c'est ça être français.
Alain Duhamel.
Elle m'a dit ça, et ça m'a touché, parce que je crois qu'elle a raison.
Ben, d'abord, ça prouve qu'il est possible d'arriver. Et d'ailleurs, il y a une bourgeoisie musulmane qui commence à exister, qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc, il y a des pentes très négatives et très inquiétantes. Il y a aussi des pentes positives. Notre intérêt, mais aussi notre vocation, et en particulier si on est justement attaché à l'identité de la France. Si on est attaché à l'identité de la France, notre vocation, c'est de se montrer un peu plus imaginatif, un peu plus créatif, avec un peu plus de moyens, et le cas échéant, beaucoup plus de mobilisation pour arriver, d'une part, à contrôler un flux immigratoire, ce qui ne peut se faire qu'au niveau européen, mais qui peut se faire, et d'autre part, pour réfléchir, alors là, on en revient à la question de l'école, pour réfléchir à des modes de pédagogie scolaire, d'insertion sociale et d'apprentissage de la culture, des mœurs, de l'originalité de la France. Et il ne faut pas du tout croire que c'est impossible et que c'est utopique, puisque par nature, ceux qui viennent espèrent quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient. Donc, la France représente quelque chose de meilleur. Donc, à partir du moment où ils viennent et où la France représente une forme d'idéal, peut-être d'utopie d'ailleurs, mais à nous de trouver les moyens à ce moment-là, un, de contrôler à l'entrée, et deux, de réellement faire ce qu'il faut pour qu'ils trouvent leur place dans la société. Et il ne faut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Je veux dire, même si c'est Denis Tillac avait raison de dire qu'on n'était pas un pays d'immigration comme l'ont été les États-Unis, comme le sont les États-Unis, il n'empêche que quand on est justement comme la France, un pays qui a des traditions, des rites, une conscience d'elle-même, et si vous voulez une âme, c'est plus facile d'intégrer les gens que si on est une construction récente et artificielle comme l'a été la moitié de l'Europe pendant le 18e et le 19e siècle. On a une possibilité, mais c'est toujours pareil, c'est aussi une question de conscience. Science et de volontarisme.
Oui. Denis Tillinac, pour conclure.
Plus que de moyens, je crois que c'est pas qu'une question de moyens, c'est plutôt
C'est pour ça que je dis conscience et volontarisme.
Oui, si les Français reprennent confiance en la France, et conscience de la richesse de leur héritage, la France, c'est pas rien, c'est pas n'importe où, c'est qu'un siècle d'histoire géo qui a généré un patrimoine spirituel, intellectuel, paysager, gastronomique, littéraire. Si les Français ne cessent de renier tout ça au nom d'une espèce de modernité venue d'un peu partout,
mais c'est très minoritaire,
qui nous acculture tout. Ouais, mais enfin, c'est
pas tout à fait dans l'enseignement.
Mais l'enseignement,
c'est pas minoritaire dans l'enseignement, puis c'est pas minoritaire dans les élites parisianistes non plus. Hein. Donc à partir de ce moment-là, oui, il y a quelque chose pour assimiler. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette histoire d'Europe, parce qu'un peuple, ce n'est pas un agrégat. Hein. Le peuple français existe, bon, c'est à lui à décider qui veut accueillir, dans quelles conditions, jusqu'à quand. Ça ne peut pas être l'Europe, parce que l'Europe n'est pas un peuple.
Je ne vous dis pas que l'Europe est un peuple, je vous dis que l'Europe est pour nous une ambition, que l'Europe est pour nous un moyen, que l'Europe peut être pour nous, doit être pour toi. En tout cas, c'est ce que pensait le général de Gaulle. Un levier d'Archimède, et qu'il est possible de trouver au niveau européen des solutions aux flux migratoires et au niveau français des formes d'assimilation ou d'intégration.
C'est à chaque peuple d'en décider.
Bon, ben, très bien. Écoutez, là-dessus, désaccord.
C'est pas à monsieur Juncker de se.
Mais c'est pas le cas. Ça n'est un pas le cas et deux pas ce que je dis.
De décider.
C'est typiquement du déclinisme.
Bon, non, c'est pas du déclinisme.
Ça veut dire que les pouvoirs nous échappent. Mais non, les pouvoirs ne nous échappent pas.
Je vais être obligé de vous interrompre.
Allez, on va passer.
Mais en tout cas, je vous interromps et en même temps, votre désaccord est visible et compréhensible par tous. Et en plus, je rappelle les titres de vos livres, Les pathologies politiques françaises d'Alain Duhamel est publié chez Plon, L'âme française de Denis Tillinac aux éditions Albin Michel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Conversation philosophique sur l'amour. Mes invités seront Paul Audy et Francis Wolff. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lachard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierrick Charles. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.